France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Pierre Antaille, je suis né en 1964 à Paris et je suis musicien claveciniste.
Bonjour Pierre Antaille.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, ici, sur les bords de l'Yvette, dans la vallée de Chevreuse, au milieu des arbres. Moi, j'ai la chance d'avoir vu sur jardin, un grand calme, on n'entend pas un bruit. Vous êtes claveciniste, on l'entendait, musicien, chef d'orchestre aussi, on aurait pu le rajouter. En tout cas, votre jeu produit des scarlatti qui consument le clavecin, des rameaux étourdissants, des bacs comme ça, pénétrants et intenses, des magnifiques virginalistes aussi. Votre démarche esthétique semble faite autant d'exigence que de liberté. Je ne sais pas si cela vous convient. Est-ce que vous diriez qu'il y a autant d'exigence que de liberté ?
Eh bien, la liberté naît justement de l'exigence et d'une étude approfondie et structuré avec une grande discipline, mais effectivement, avec l'âge, on espère acquérir une plus grande liberté.
Il faut maîtriser parfaitement pour se libérer des codes, c'est ça que vous diriez, d'une certaine façon ?
Oui, c'est ça. Je joue des musiques qui sont peut-être les plus structurées, en tout cas la musique de Bach, c'est la musique la plus organisée qui soit, et il faut une discipline formidable pour essayer d'en percer les secrets. On ne joue jamais deux fois de la même manière, même si l'exigence reste la même par rapport au texte. Le texte, évidemment, ce qui est sur la partition, ça n'est pas tout. Ça n'est pas la musique. Voilà, donc il faut étudier toute sa vie. La liberté vient naturellement. On ne peut pas commencer par la fin.
Et est-ce que si jamais on regarde un petit peu dans le passé, vous diriez que cette vision que vous avez aujourd'hui, vous l'aviez déjà, je sais pas, même par exemple juste il y a 15 ans, il y a 20 ans, est-ce que c'était la même ou est-ce que le chemin entre l'exigence et la liberté, il évolue lui aussi ?
Non, je pense que mon jeu a changé. Enfin, c'est une chose, encore une fois, c'est une chose naturelle. C'est une chose qui vient par le travail et le temps passe et un jour, on joue différemment.
Vous diriez qu'il y a une forme de quête d'idéal dans votre métier, peut-être que ce n'est pas un métier, dans votre art, comment est-ce que vous le voyez ?
Ben, s'il y a un métier, ou en tout cas s'il y a un rôle à jouer, c'est celui d'interprète qui, pour moi, signifie essayer de comprendre une œuvre à partir du texte écrit et la révéler au public de la manière la plus honnête et humble qui soit.
Le public permet aussi de parfaire le métier de l'interprète.
Alors ça, c'est une autre question. Le rapport avec le public est très important. Il vous apprend, d'une certaine manière, à vous produire sur scène, c'est-à-dire à faire sortir l'élément rhétorique de la musique. C'est lui qui va faire que vous allez être écouté, entendu et compris. Et ça, on ne peut pas l'apprendre à la maison. On peut l'apprendre que devant le public. Mais pour en revenir à mon rôle d'interprète, oui, j'essaye il ne revient qu'à essayer de traduire le mieux possible les intentions d'un compositeur. Alors, évidemment, on ne peut pas connaître réellement les intentions d'un compositeur. On peut essayer simplement de les comprendre.
Oui, ça, c'est justement, c'est tout ce travail aussi d'aller s'informer, d'aller scruter des partitions, de se renseigner, de voir aussi, j'imagine, tout ce qui est autour de la partition et de la géographie.
Oui, voilà, c'est
de
ça,
l'histoire.
C'est ce mouvement qui est né peut-être au XXe siècle, mais enfin qui évidemment a été plus intense à partir des années 50 avec Léonard et Arnoncourt, d'essayer de faire table rase devant un constat qui est celui que la tradition n'existait plus, qu'il y avait une lente dérive progressive, mais qu'il fallait bien, pour essayer de comprendre les œuvres du passé, tout effacer et tout reprendre à zéro, essayer de se mettre dans l'esprit de ces gens qui avaient composé les musiques et essayer de comprendre quelque chose tout en étant sûr qu'on ne trouverait pas. C'est tout simplement une volonté de se rapprocher et d'être un peu plus proche des désirs des compositeurs, c'est-à-dire de donner un sens à leurs œuvres.
Votre enfance, Pierre Antaille, même avant que vous ne pratiquiez ou vos frères, Marc et Jérôme, ne pratiquent, c'est un environnement aussi de peinture. On en voit ici d'ailleurs quelques exemples sur votre père et votre mère aussi qui était, est-ce que elle-même, parce que je crois que elle-même aussi était peintre, on parle
oui.
De votre père, Simon Antaille.
Oui. Les deux se sont rencontrés aux Beaux-Arts à Budapest. Ben, c'est très intéressant. Cette façon dans les justement on rencontre l'art, la musique dans mon cas, mais l'art en général. Pour mes parents, l'art était crucial toute leur vie, mais ils venaient d'univers assez différents, donc peut-être plus traditionnel chez ma mère, qui est une famille on l'appellerait bourgeoise aujourd'hui de Transylvanie et qui a appris comme dans les bonnes familles a appris le piano et a aimé assez vite un répertoire qui est le début de ce qu'on appelle la période classique. Voilà ce qu'elle aimait jouer. Mais du côté de mon père, c'est quelque chose de beaucoup moins traditionnel et un peu étonnant. Il venait d'une communauté swabe qui avait émigré en Hongrie, peut-être vers le XVIIe siècle. Et dans son village, où il y avait beaucoup de swabes, les gens étaient pour la plupart des paysans, enfin, avaient des métiers très simples, c'était des gens très simples. Mais ils avaient avec eux tout un répertoire qui avait été apporté par leurs ancêtres pour la liturgie. Et donc, une chose assez étonnante, au moment de Pâques, ces paysans chantaient ce qu'aujourd'hui on considère, enfin moi je considère comme le plus important de la culture allemande, le début de la musique allemande, c'est-à-dire les ancêtres de Bach, surtout Schütz, Et il chantait la passion de Schütz. Pour certains, il la chantait d'oreille. Ils ne connaissaient même pas la musique. Donc ces gens extrêmement simples avaient accès à la culture la plus profonde qui soit. Mais il l'ignorait. Mon père l'ignorait, en tout cas. Et il a eu la chance, lui, de partir. Son père là, a voulu qu'il s'élève un peu socialement, donc il a fait des études à Budapest, et il aurait dû devenir ingénieur, mais voilà, l'art lui est tombé dessus. Et tout à fait par hasard, peut-être dans un cours de sculpture au lycée. Et à partir de là, évidemment, l'art était toute sa vie, mais la musique avait une grande importance. Lui-même n'en faisait pas, mais elle était là comme une espèce d'arrière-plan.
Et la religion avait une importance parce que on entend votre père, du coup, je crois que la communauté swab est catholique.
Oui.
Votre mère était de quelle confession ?
Ma mère était de confession juive.
Parce que vos parents sont nés dans les années 20, à peu
ils
près.
Sont nés dans les années 20, oui, ouais, dans les années 20, voilà. Et donc, ils se sont rencontrés aux Beaux-Arts pendant la guerre. C'est une histoire très, très, très compliquée et douloureuse, parce que ma mère a été faite prisonnière et s'est échappée in extremis d'une mort certaine. Et les deux, après la guerre, se sont retrouvés dans une situation un petit peu ambiguë, parce qu'ils étaient, ils avaient une proposition de bourse du gouvernement, et ils auraient pu partir directement en France, mais il y a eu des événements un petit peu, ont bousculé les choses, et ils se sont plus ou moins sauvés à ce moment-là, se sont retrouvés à Paris, et là, on leur a refusé la bourse, et donc ils ont décidé de ne pas revenir au pays, qui à tout point de vue était devenu catastrophique, et en particulier dans les arts. Voilà, donc ils ont fait leur vie ici.
Votre père était très engagé, votre mère aussi, même quand on parle de Budapest, des études, parce que du coup ce sont les années quoi, si on est dans les années 20, début des années 40 en
oui,
fait.
Oui, oui, oui. Engagé.
Engagé politiquement, est-ce que...
On sait que mon père n'était pas engagé, mais il a certainement était un peu grande gueule, et il s'est retrouvé comme ça un peu chef d'un groupe d'étudiants, et donc il a fait une harangue aux Beaux-Arts, anti-allemande, et ça a mal tourné pour lui, il a été arrêté par la police hongroise, et il a eu la chance de tomber sur des policiers... qui avaient un peu d'humanité en eux et qui l'ont relâché sur le chemin de la Gestapo.
La langue que parlaient vos parents, c'était le hongrois entre eux
Oui, ils parlaient le hongrois et quand ils sont arrivés à Paris, ils parlaient hongrois et peu à peu ont appris le français, ils ont fini par parler français entre eux.
Parce que je me demandais ce qui restait de cette communauté swab, de la langue allemande.
Ah, de la langue allemande.
Je ne sais pas.
Je pense que mon père parlait allemand même dans l'enfance. Ils avaient tous des noms allemands, et d'ailleurs mon père s'appelait Handel, pas Handel, mais Handel. Et au moment de la guerre, ces gens ont décidé de, comment dire, hongariser leur nom, d'abandonner leur nom allemand, un peu par réaction à la politique allemande, et tous ont pris des noms à consonance hongroise. Donc Antai, c'est un nom, c'est Handel hongarisé.
Donc vous, quand vous êtes enfant, Pierre Antaille, vos parents, ils se parlent le français ou est-ce que leur langue est restée le hongrois ? À quelle langue vous a bercé ?
Alors moi, j'étais le petit dernier, en tout cas des frères. Et je pense que mes grands frères ont entendu plus volontiers du hongrois et moi, déjà plutôt du français.
Vous êtes combien ? Parce qu'on en connaît deux,
deux autres,
ah, Marc et Jérôme.
Oui, ah oui, on est quatre garçons et une fille. Voilà. Et trois musiciens qui sont là au milieu. Donc il y a un grand frère qui a une quinzaine d'années de plus que moi et j'ai une petite sœur aussi. Et moi, je suis le Benjamin du trio musical.
France Musique, des grands entretiens de Pierre Entaille.
Quand vous êtes enfant, vos parents ont quitté Paris ou sont toujours à Paris
parce que moi, je suis né à Paris. Mais à 2 ans, quand j'ai eu 2 ans, mes parents ont décidé de s'installer en lisière de la forêt de Fontainebleau. Il y avait des amis, les raisons étaient autant le fait que mon père avait besoin d'un grand atelier pour ses grandes peintures, qu'il fallait aussi de l'herbe et des champs pour que ses enfants, qui commencent à être nombreux, s'ébattent librement. Et je pense qu'il avait aussi un besoin de retour à la nature qui était assez fort chez lui. Et donc, on s'est installé à la campagne. Donc moi, je suis un gamin vraiment de la campagne, parce que là, un petit village a un jet de pierre de Paris, qui est Fontainebleau, à l'époque, c'était très loin. Et c'est vraiment la campagne, alors ça l'est resté. C'était une campagne d'agriculteurs, un endroit très, très, très sauvage. Et enfant, ma vie s'était vraiment traînée dans les champs, dans la forêt, selon des itinéraires qui étaient toujours un peu les mêmes. Et comme je suis allé à l'école, je suis rentré à l'école assez tard. À cette époque, c'était pas obligatoire avant 6 ans. Voilà, j'étais arrivé à l'école à 6 ans. Et jusque-là, j'étais un peu livré à moi-même parce que mes frères étaient déjà à l'école et il y avait peu d'amis. Et donc j'ai appris l'ennui. Et l'ennui, ça me manque beaucoup aujourd'hui. Enfin, un peu pas ces moments où on peut rêver, apprendre des choses par soi-même.
Vous aimiez cette solitude, enfant, ces heures-là, en tout cas.
Oui, j'ai appris à m'occuper, à me passionner pour des choses. Alors, j'ai eu une vraie passion pour la peinture, qui se comprend aisément, parce que j'étais là à la maison et mon père était dans l'atelier, et parfois j'y rentrais, je le regardais travailler, et ça m'a beaucoup plu. La peinture me plaisait énormément, et quand on voulait me faire plaisir à Noël ou à un anniversaire, on m'offrait un gros bouquin sur Raphaël ou Dürer, et j'étais heureux avec ça. Voilà, donc évidemment, j'étais un petit peu isolé des autres enfants du village. On n'avait pas vraiment les mêmes préoccupations, mais je pouvais aussi faire des 400 coups par ailleurs.
Votre mère, elle s'est arrêtée de peindre ou
Ma
elle
mère,
peignait
oui,
tout
elle a été... Enfin, comment dire, mon père prenait beaucoup de place avec sa peinture. C'était un mouvement de repli progressif qui s'est fait tout seul.
Pour votre mère ?
Oui.
Et votre père, vous, quand les souvenirs que vous avez, c'est quelle période ? Parce qu'il y a eu plusieurs périodes dans sa peinture. Les moments de pliage et de technique, ça c'est juste avant votre naissance, en fait. C'est le début des années 60.
Ah oui, c'est un peu ce moment-là.
C'est ça, c'est à peu près ce moment-là.
Toute la période surréaliste, gestuelle et tout ça, c'était avant ma naissance, donc j'ai pas connu tous ces grandes batailles, parce que c'était assez mouvementé, ces relations avec les surréalistes notamment. Mais non, moi quand je suis né et quand j'ai commencé à être conscient des choses, c'était la campagne, c'était beaucoup plus apaisé. Et je pense que c'était aussi beaucoup plus apaisé dans l'esprit de mon père, qui avait trouvé d'une certaine façon sa voie, qui n'était plus dans les querelles de chapelle. Voilà, parce qu'il est... Je pense que la façon par laquelle il est arrivé à l'art a induit un certain comportement pour lui. L'art lui, n'était pas, lui pas arrivé naturellement. Enfin, l'art, il n'aurait pas dû être cet artiste. Et à partir du moment où il a été saisi, il a voulu tout savoir, apprendre vite et aller là où l'art se faisait, où il y avait une réflexion. Et donc, tout le monde lui conseillait d'aller à Paris. Voilà. Donc, il voulait rencontrer Breton, les surréalistes. Mais finalement, le surréalisme était une histoire d'avant-guerre qui était déjà un peu éteinte. Et c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a finalement déçu beaucoup et assez vite. Donc, il a quitté ce mouvement-là. Il l'a quitté avec un peu de fracas. Et puis, après une recherche assez longue, il a trouvé davantage sa manière. Et il a voulu peindre, je pense, à la campagne, face à la nature. Et c'était favorable, j'imagine, à son inspiration. Au milieu de la peinture, on n'en parlait pas. Mais bon, toute mon enfance était baignée dans la peinture, mais aussi dans l'art en général. Voilà. C'est pourquoi, à un certain âge, la musique a pris le dessus brusquement sur ce terrain qu'on a expliqué tout à l'heure. Mais ça s'est fait bizarrement par le lycée. C'est-à-dire mon frère aîné, Marc, a été le premier à rentrer en sixième. Et là, il a étudié avec ce qu'on offrait à étudier dans les lycées à cette époque-là, en termes de musique, c'est-à-dire beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais pas tellement quand même. Il a appris à lire les notes, à jouer de la flûte, etc. Et ça lui a plu. Et le professeur que nous avions était un organiste. Et voyant que Marc était intéressé, il l'a dirigé vers des stages, ça s'est fait comme ça. Et puis Jérôme, un an après, a suivi, et moi, le petit dernier, j'ai imité les grands frères.
D'une certaine façon, la musique leur est tombée dessus, un petit peu comme la peinture est tombée sur votre père. C'était des choses pas préparées, et paf !
C'était pas préparé. Le terrain était favorable, mais ça n'était pas du tout préparé, voilà. En tout cas, on n'a pas été inscrit dans un conservatoire à l'âge de 5 ans, à suivre les échelons, les niveaux, les examens, etc. Ça s'est pas du tout fait comme ça. Et je pense que ça aussi, ça a une assez grande importance sur notre développement, en tout cas notre vision de la musique. Comme la liberté de penser de nos parents a une grande importance sur le choix qu'on a fait de s'intéresser à des musiques qui, à ce moment-là, au début des années 70, n'étaient pas la tasse de thé du monde musical, hein, particulièrement en France.
Vous dites la liberté de penser de vos parents. C'est vrai que j'en reviens un instant à votre père, mais qui a collaboré quand même avec Jean-Luc Nancy, avec Derrida. Il y avait cette importance de la philosophie, de la réflexion.
Énorme, oui. Oui, pour lui, peindre était, pour lui, c'était une façon de penser. D'où son intérêt pour la musique la plus mathématique et complexe.
Pour la langue aussi,
de
musicale,
Bach,
en fait.
Parce que Bach était aussi un penseur en musique. Et parmi les plus grands penseurs qui aient été. Pour lui, oui, c'était indissociable.
C'est sur cet extrait du Marteau sans maître de et par Pierre Boulez que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Pierre Antaille. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Valérie Lavalard, attaché de production Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. réécouter sur francemusique.fr.